En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, babe, j'ai pris des résolutions. En voilà une drôle de question. J'aurais pas passé des mois à te faire la course si j'avais d'autres femmes en tête. C'est toi ma raison d'être. Viens à la maison, babe, j'ai pris des
Salut la team.
En voilà une drôle de question parce qu'aujourd'hui on répond aux questions.
J'étais sûr qu'il y en avait un qui allait faire la vanne.
Est-ce que les gens ont compris qu'à chaque fois on essaie de mettre une musique un peu en rapport avec le sujet? On sait pas ça.
Bah oui, mais il faut pas le dire.
Ah merde. Ah, fallait pas le dire.
Bah, vous prenez vraiment les gens pour des cons, salut.
Bah parfois ils le sont un peu.
Bah écoute, ils vont être ravis de l'apprendre. Moi non, je pense que les gens s'en sont aperçus naturellement.
Moi,
en tout cas ceux qui doivent.
Parfois tu fais les pas
autres,
trop attention.
Les autres vivent dans l'ignorance et ça leur va très bien en fait.
Moi je suis pas... Aujourd'hui c'est quand même très clair, mais parfois tu fais pas trop attention à la musique qui se joue.
C'est vrai.
Là le rapport est quand même, important, c'est pour ça que je voulais en parler.
Grâce à la trouvaille de Manuel... On a pu écouter quelques-unes de vos 12 voix parce que vous pouvez maintenant nous laisser des messages, en gros. C'est comme un système de messagerie, sauf qu'on n'a pas tout écouté et on a fait exprès de se réserver un épisode dédié où on répond à vos questions. Mais on ne sait pas trop à quoi, donc on ne promet pas forcément les réponses.
Un jour, je vais faire un jeu contre la maladie du youtubeur qui utilise le mot dédié pour tout. C'est une vidéo dédiée, c'est un épisode dédié, c'est un rendez-vous dédié à ce sujet. Tout est dédié, en fait. On a l'impression qu'on est tous morts et que la vie est un grand hommage.
C'est à force de vendre des vidéos dédiées aux marques.
C'est ça.
Au bout d'un moment,
Bienvenue dans ce Take Out. Si vous ne nous connaissez pas et que vous nous découvrez, bah, passez un bon moment et puis découvrez les autres podcasts, vous comprendrez très vite.
Alors, un bon moment, c'est une autre émission.
Manuel, première question.
Bonjour Manuel, bonjour Romain et bonjour Léo. J'ai 14 ans et en ce moment, je m'intéresse au minimalisme digital.
C'est incroyable de s'exprimer comme ça à son âge.
Je trouverais intéressant que vous approfondiriez dans un podcast la vidéo de Romain « J'ai arrêté cette drogue » ou encore celle de Léo « Vivre 3 jours sans technologie ». Et justement, comment trouver un juste milieu entre accro et pas technologie du tout. Et une fois minimalisme, de ne plus retomber dans ce cycle d'être accro à son téléphone, par exemple.
C'est Nicolas qui nous pose cette question, qui a 14 ans.
Léo a fait une vidéo passer 3 jours sans technologie.
Bravo à Nicolas.
Mais bravo, oui.
Bravo Nicolas.
Pour 14 ans.
C'est un vrai petit Nicolas. Voilà.
Déjà, il nous pose une question et tout. C'est très cool. Merci, Nicolas.
Exactement. Comment adopter... Vous ne respectez pas les gens qui vous écoutent. Je suis le seul, les gars. Je suis le seul à respecter les éditeurs. Voilà. Au-delà du fait qu'il faut qu'il, lui, il approfondisse un peu le subjonctif, mais ça, c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'on peut approfondir ces deux sujets qui vous concernent, messieurs? Parce que c'est dans chacun de vos cas, c'est une vidéo sur vos chaînes.
Ouais, c'est vrai.
Moi, j'en ai rien à foutre.
C'est vrai. Comment accéder au minimalisme digital? Bah, en fait, Nicolas, t'as déjà tous les outils qui sont présents dans au moins ton téléphone, peut-être ton ordinateur. Ne serait-ce que sur iOS ou sur Android, ils ont mis quand même pas mal d'outils récemment qui permettent d'aller vers cette sorte de minimalisme digital qui est simplement de couper tes notifications à certaines heures de la journée. On a vu sur iOS récemment qu'il y a des profils qui s'appellent travail, repos, etc. qui te permettent de dire juste je veux que ce type de contact puisse me contacter à cette heure, mais pas à cette heure-là, etc. Il y a plein de profils qui sont paramétrables maintenant sur ton téléphone, que tu sois sur iOS ou sur Android, et ça permet déjà de faire un tri dans les personnes et les applications qui peuvent te déranger à certains moments de la journée.
Je pense qu'avant d'avoir recours justement, je déteste, mais vraiment minimalisme digital, ça me tend comme mot, je sais pas pourquoi.
Ça te tend parce que c'est surutilisé, mais le terme est bon, hein.
Ouais. Non,
je pense que ce qui tend, Romain, c'est le minimalisme en général.
Ouais, peut-être. Ouais.
C'est la tendance monégasque. On est dans la profusion. On n'est pas dans le minimalisme.
Mais quel bâtard, mais non, au contraire, je suis pas.
Quoi?
Non.
Non, bah attends, j'invite tout le monde à aller voir votre interview pour GQ sur vos essentiels.
D'accord, ok, c'est
bon.
On va
comprendre le minimalisme version Romain.
Ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. Est-ce qu'à un moment dans ta journée, tu te dis. Putain, je passe trop de temps sur mon téléphone à pas faire grand chose. Est-ce que à un moment t'as ce truc là? Parce que moi je connais des gens autour de moi qui sont super heureux de swipe up sur TikTok pendant 6 heures. Hein. Vraiment, ils sont à l'aise avec ça. Moi, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment approfondir certains sujets et être bon dans un domaine, va forcément falloir que je m'ampute à un moment du temps que j'utilise pas à bon escient à côté. Donc j'ai vraiment eu ce besoin au début où je me suis dit. ok, là je travaille pas assez bien, pas assez en profondeur sur ces sujets, qu'est-ce qui me bouffe le plus de temps? Bah des gens dont j'ai rien à foutre du tout qui m'appellent et qui m'appellent quand j'en ai pas envie, répondre à des trucs, tu sais, le mec qui t'appelle et qui dit ah j'ai besoin de ça maintenant, bah en fait mec c'est ton objectif, moi j'en ai strictement rien à foutre, j'ai jamais pensé à toi, il te dérange à ce moment-là de la journée, t'es en train de faire un truc, t'as ton téléphone qui sonne, t'es sur une application de base pour aller voir telle chose sur une photo et puis il y a une application qui t'appelle avec une autre notification, bref il y a un moment où je me suis dit merde faut que j'arrive à gérer ça. Et c'est là où, pour moi, tu rentres dans cet esprit de minimalisme digital.
On sent que ce sujet te tient à cœur et t'énerve beaucoup, Romain.
Ouais, parce qu'on se rend pas compte que la plupart des choses qu'on fait dans la journée sur notre smartphone principalement, beaucoup de gens ne le décident pas. Et moi, ça m'embête. On est quand même la race la plus développée dans le monde, quoi. Si, la race humaine, c'est quand même l'être le plus développé dans le monde.
Et que je peux te montrer des échantillons qui, personnellement, ne m'ont pas convaincu.
C'est vrai, mais à part l'être humain, j'ai vu personne encore réussir à faire atterrir des fusées aujourd'hui. Donc, j'estime que l'être humain, quand même, est la dernière espèce à devoir subir quelque chose qu'il ne choisit pas.
C'est un autre débat.
Bon.
On a fait le feu, quand même.
C'est vrai. Il faut voir, et puis on voit ce qu'on a fait avec.
C'est ce qui nous sépare de l'animal. Mais au-delà du fait de
TPMP,
de travailler,
par exemple.
Au-delà du fait de travailler, de vouloir te dédier à un truc, etc., juste pour une question de bien-être, en fait, passer toute la journée sur TikTok ou même, en général, sur ton téléphone, c'est pas bon. Au bout d'un moment, t'as une sensation de vide, en fait. Tu sais qu'à la fin, ta journée, t'as rien fait, mais tu sais aussi que tu vas recommencer le lendemain.
Alors moi je n'ai pas fait de vidéo sur cette question si vous les spécialistes et je n'ai pas fait de vidéo tout court depuis très longtemps, mais tout ça pour dire que je pense que le minimalisme digital est une question intéressante, mais le minimalisme tout court est une question encore plus intéressante. La question c'est pas la version digitale du minimalisme, ce que vous soulevez et l'un et l'autre dans vos réponses, c'est la question du minimalisme, ne pas subir, choisir, définir ta roadmap, ne pas t'entourer de trucs superflus qui contribuent pas à ta concentration, etc., etc. C'est la question de l'essentiel, de la pureté, d'aller vraiment dans la forme la plus simple à ce qui est essentiel et pas superflu. C'est ça l'enjeu.
Et d'ailleurs, il y a un enjeu où tu nous as quand même mis plutôt les yeux face à ça, Léo, c'était le fait de n'avoir plus aucune application. Quand on ouvrait notre téléphone, toi aussi, Manuel, tu l'avais pas ça avant que Léo te le conseille ou que vous en parliez?
Tu sais, Léo, quand il donne un conseil, en général, ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que tu t'absentes une seconde et il prend ton téléphone et tu reviens, il est plus pareil.
Il n'y a donc, plus aucune application.
Il n'y a pas eu de concertation, de discussion, etc.
Et ça, c'est un truc tout bête à tester. Je sais que beaucoup de gens se disent « Ah ouais, c'est génial !» Enfin, je sais que les gens qui prennent parfois mon téléphone, vraiment, c'est comme de l'admiration. Alors qu'ils sont juste à un clic de le faire, mais tu sais pas pourquoi, ils sont tellement drogués par ça indirectement qu'ils le font pas.
Et ça c'est important parce que pour répondre à Nicolas et pour le dire à tous les gens qui rêvent de ce minimalisme digital et qui sentent qu'ils en ont besoin, en fait vous avez pas besoin d'outils, vous les avez déjà tous. C'est-à-dire que tu peux dégager plein d'applications de ton écran d'accueil, etc. Si tu peux pas faire ça, tu peux mettre ton téléphone dans une boîte aux heures auxquelles tu travailles ou tu souhaites pas être dérangé. Enfin, tout ce qui vous manque, c'est de la volonté, mais réelle. Pas juste la volonté de quand t'as vu la vidéo de Romain sur le minimalisme, tu te dis « Ah ouais, faudrait que je fasse ça ». La vraie volonté de le faire, là, tout de suite, après ce podcast. Tu dégages la plupart de tes applications qui vraiment te bouffent à la journée, ou alors tu te mets des horaires dans lesquels tu toucheras pas à ton téléphone, ou alors tu désactives tes notifications, etc. Il y a plein de choses à faire qui existent déjà, et vous n'avez pas besoin de solutions précises.
Voilà.
Le fond du fond, c'est la question de la volonté et de ne pas céder à la facilité, etc. D'ailleurs, on accuse toujours la technologie. C'est plus facile de se poser la question du minimalisme digital que celle du minimalisme dans sa globalité. Parce que, en fait, il vaut mieux accuser l'outil plutôt qu'accuser son comportement. Ça évite de se remettre en cause et c'est dommage. En tout cas, bravo.
Elles sont bien, ces petites questions.
Nicolas. 14 ans, je le rappelle, qui nous pose une question.
Qui se pose déjà cette question, ça c'est incroyable.
Ouais, c'est incroyable. Bravo. Bravo Nicolas. Alors, on a une question de Martial.
J'avais une proposition de sujet à vous suggérer, c'était l'importance de séparer la vie professionnelle de la vie privée. Donc, étant donné un petit peu l'hétérogénéité de vos profils, je pense que ça pourrait être un sujet plutôt pas mal. J'attends notamment l'avis de Manuel sur cette question. Et j'espère que ça mènera aussi à un petit peu de discorde dans le groupe, ce sujet.
Bon, séparer la vie pro de la vie perso. Moi, je suis le pire exemple pour ça, parce qu'en fait, j'ai que ma vie pro, et puis si ça fait chier ma vie perso, ben, je les emmerde. Voilà, au moins c'est clair. À vous.
Emmerde tout le monde, c'est donc ton conseil. Moi, c'est un peu difficile de parler de ce sujet-là parce que encore plus que vous, c'est très.
Tu travailles pas toi, c'est pour ça.
C'est très proche. Mais en fait, mes relations pro sont aussi mes relations perso parce que vous êtes mes amis.
Oh, c'est mignon, Léo.
Et la plupart du temps, quand je travaille, bah, c'est avec vous. Donc, ce truc-là est un sujet qui me concerne et à la fois, je saurais pas trop en parler parce que je sépare pas trop les deux. Ils se mélangent au quotidien.
Je pense que sur cette question, on est gâtés.
Ah ben là, t'as trois pourris gâtés qui te répondent. On est passionné par ce qu'on fait déjà au travail.
La question, elle est là. C'est-à-dire que on a tous, dans des voies différentes, mené un combat pour faire en sorte que notre passion dans la vie devienne notre métier. Qu'on vive de notre passion dans la vie. Donc, la question de séparer la vie professionnelle de la vie privée est assez délicate quand t'as tes revenus, ta vie professionnelle, ton épanouissement professionnel viennent de ce qui est à la base une passion dans ta vie. Après, je pense que derrière cette question, ce que Martial dit, c'est comment tu doses, comment tu gardes des zones dans lesquelles tu penses plus vraiment au boulot, des zones dans lesquelles tu peux te ressourcer, etc., etc. La question du dosage, elle est intéressante. On a fait plein de podcasts sur la façon de gérer son temps, de garder des zones dans lesquelles on peut effectivement se nourrir. J'en ai parlé dans une de mes newsletters avant l'été en disant justement la période de l'été, c'est une période pour laquelle vous allez pouvoir vous concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire vous. Pour une fois dans l'année, le centre de l'attention, ça peut être vous, utiliser ce temps intelligemment. Donc la question de la vie professionnelle et de la vie privée, elle se pose surtout quand ta vie professionnelle ne t'épanouit pas, quand tu fais quelque chose qui ne te passionne pas et qui est surtout alimentaire. Et dans ce cas-là, tu cloisonnes, tu comptes tes heures, tu commences à avoir une attitude qui n'est plus une attitude d'investissement, mais qui est une attitude vraiment de type productive. Je suis employé de telle heure à telle heure, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Et j'exécute. Et ça me fait penser à cette phrase de Steve Jobs qui disait « Si tu ne crois pas assez en tes rêves, tu trouveras quelqu'un qui va t'embaucher pour réaliser les siens. »
Mais certains n'ont pas de rêve. Certains sont très contents.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Moi non plus.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
C'est vraiment une merde.
Je pense que tout le monde en a, mais que certains n'ont pas assez de confiance ou n'ont pas été assez encouragés ou préparés ou même des fois... ne sont pas assez, c'est présomptueux ce que je vais dire, mais je le dis avec affection, c'est-à-dire ne sont pas assez cultivés pour croire en leurs rêves.
Et ils pensent que c'est irréalisable.
Ils pensent que c'est irréalisable, ils voient beaucoup d'obstacles à tout ça, etc., etc. Et ça mérite de l'encouragement, ça mérite de les aider, etc.
Ça mérite take out.
Il y a un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui m'a... Mais parce que justement, on parlait de culture et ce n'est pas juste le fait d'être plus intelligent ou moins intelligent, ça n'a rien à voir.
La culture n'a rien à voir avec l'intelligence.
Ouais, et j'ai entendu dernièrement une personne qui me disait « Ah, le jour où je gagne au loto, j'aurai sûrement ça. » Ça m'a dévasté comme phrase. Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais... pourquoi ? Parce que tu penses jamais assez bien travailler pour pouvoir un jour réaliser ce rêve-là ? Bah non, mais ça quand même. Et et juste en trois phrases, j'ai compris qu'il y avait en fait un énorme fossé entre ce que tu penses pouvoir être capable de délivrer parce que tu vois très très long terme et tu as des objectifs au fur et à mesure que tu penses pouvoir atteindre et le truc de te dire « mais cette personne en plus était jeune quoi ».
Alors on nous reproche souvent de divaguer. Je pense que si on resserre sur cette question, la question de la répartition entre la vie professionnelle et la vie privée, oui, tu as raison, mais ça ferait l'objet d'une autre conversation qui est que la confiance en soi est un facteur déterminant pour s'accomplir, croire suffisamment en soi, croire en sa passion, et donc du coup la transformer en un métier qui te... voilà. Mais tout le monde n'est pas équipé de la même façon. J'arrive Léo, il lève le doigt comme à l'école. Tout le monde n'est pas équipé de la même façon pour, dans la confiance en soi. Et c'est un vrai problème. Vas-y Léo, tu en crèves d'envie.
Moi, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, où tu dis qu'on est gâté. Je ne veux pas le contredire parce que ce serait un peu malvenu. Effectivement, on est gâté, mais j'aimerais quand même nuancer un peu le propos et dire aux gens qu'il y a une vraie différence entre... faire un truc le week-end quand tu rentres d'une semaine de cours, ouais, et que t'as attendu ça toute la semaine, ouais, de faire tes petites vidéos, d'écrire tes petits textes, etc. Et quand ça devient ton métier, tous les jours, que tu dois faire de ce truc-là ta vie, que tu dois gagner de l'argent avec ça, il y a une vraie, vraie différence entre ces deux choses-là. C'est entre vrai. Faire du tennis le week-end et en faire ton métier, ta profession, tu deviens un athlète, tu deviens réellement un professionnel, il y a une très grosse différence et ça peut être un peu choquant. Moi, j'ai eu du mal un petit peu à passer de l'un à l'autre. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. J'ai toujours l'envie, mais c'est pas la même. Et
c'est vrai.
En fait, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même loisir.
C'est vrai, je m'appuie pas sur mon expérience pour dire ça. J'aime bien... Je le dis souvent, j'aime bien le basket. J'ai pas mal de potes qui sont basketteurs professionnels en France ou en NBA. Et en fait, ils sont passionnés de basket depuis qu'ils sont enfants. Mais quand ils vont à l'entraînement, ils disent « je vais au boulot ».
Ouais.
Et ils jouent pas avec le même jeu que quand ils étaient gosses. Ils jouent avec un côté justement très pro, c'est sérieux, on peut pas déconner. On est là pour avoir de la performance, on n'a pas droit à l'erreur. Il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des enjeux. À partir du moment où tu transformes une passion en boulot, tous ces éléments vont s'agréger. Tu vas être dans un écosystème où il y a de l'argent, une économie, des règles, des relations d'interdépendance, de la confiance. Et donc, ça devient beaucoup plus sérieux. Et c'est plus le petit côté fun du week-end qui te fait marrer.
Pour répondre du coup en ciblant les gens qui aiment un minimum leur travail et qui ont envie de le prolonger, que ça soit le week-end, le soir ou se réveiller le plus tôt le matin pour commencer certaines choses qui n'ont pas eu le temps de faire la veille ou d'autres choses dans ce sens, pour séparer la vie pro de la vie perso, je pense que ça dépend, pour moi en tout cas, clairement de tes objectifs. Mes premiers objectifs sont de réussir professionnellement. Mon second est de réussir personnellement. Maintenant, les deux vont un petit peu ensemble, puisque c'est vrai que si le côté personnel va bien, je suis un peu plus en forme pour aller travailler, j'ai plus d'envie, etc. Si le boulot va super mal, forcément, ça peut aussi entacher ce que j'ai envie de faire dans ma vie perso. Moi, la réalité, c'est que quand j'ai décidé d'avoir un moment perso, il n'y a pas d'entre-deux. C'est quand je dis aux gens autour de moi, on se voit et on passe la soirée ensemble, à aucun moment, sauf s'il y a une personne très proche qui est au bord du gouffre, je ne vais répondre à mon téléphone, je vais regarder Instagram, je vais poster une photo, je vais faire un mini truc parce que soi-disant j'ai oublié de le faire. Non, tu niques ta mère, tu passes du moment clair avec les gens. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient et qui te disent on passe un moment ensemble et puis toutes les deux secondes ils sont sur leur téléphone, ou à contrario, qui disent à la personne qu'ils aiment bien, on n'a pas eu le temps de se voir, non mais accompagne-moi au taf, je ferai juste deux trucs. Mais en fait, tu fais tout mal en faisant ça, quoi.
Ça, souvent, c'est les gens qui font pas notre métier, j'ai remarqué. Que moi, en général, quand je suis avec une bande de potes, je suis jamais sur mon téléphone quasiment, parce que j'ai pas envie. Le reste du temps, je suis toujours sur mon téléphone, sur Twitter, sur Instagram, je check des trucs, j'écris des trucs. Et quand je suis avec des potes, j'ai vraiment envie d'être avec des potes. Mais les gens qui font pas notre métier, qui sont pas sur Internet, qui sont pas tout le temps sur les apps et tout, ont plus le réflexe d'être sur leur téléphone quand ils sont en vacances ou en week-end, etc. Nous, je pense qu'on est un peu dégoûté de ce truc-là.
Toi, Manuel, juste pour avoir ton avis, parce qu'à chaque fois, les gens le demandent et nous demandent un peu de l'avis perso. Quand tu rentres chez toi, tu coupes direct et il y a vraiment un moment chaque jour pour toi, pour ta gueule ou pour des gens après autour de toi en perso, ou tu mixes vraiment les deux?
Moi, je coupe pas. Je coupe pas mes devices, etc. Mais j'assume complètement le fait de ne pas répondre. J'assume complètement. Je dis, il y a un moment pour tout, en fait. Et je consacre mon temps à ça.
Comme la keynote Apple, où personne n'a le droit de t'appeler pendant la keynote Apple.
C'est vrai.
À partir de 18h jusqu'au lendemain matin, sachez-le.
Exactement.
Au risque de vous faire pulvériser. Je l'ai entendu de mes propres oreilles.
C'est vrai.
Non, mais ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est de définir des horaires, mais même larges, en fait. On n'est pas en train de vous dire faites 9h, 17h, mais définir quand même des horaires à partir duquel vous allez rentrer à la maison.
Ah non.
Et là, vous coupez.
Oh non, non.
Mais moi, je coupe pas mes devices, en fait.
Je pense que c'est important, vraiment. Si tu veux séparer le pro du perso.
Mais c'est qu'il y a un truc qui te plaît pas dans l'un ou l'autre. C'est qu'à un moment, ton perso, il y en a trop, ou ton pro, il y en a trop. Enfin, ça sera un podcast long, les gars. S'en fout. Voilà, vous allez rester avec nous peut-être une heure et demie, mais ça sera un podcast où on répond à toutes vos questions. C'est pas grave, c'est cool.
Mais je pense que c'est important de définir des week-ends, des jours, etc. Vraiment.
Ok.
C'est important de définir des moments où tu donnes l'emphase sur quelque chose. Donc tu te dis, ta priorité, ça va être ça ou ça. Et le reste va devenir anecdotique. D'ailleurs, on le fait dans certains. Moi, quand je pars en vacances, ma priorité, c'est. Ma liste de lecture et mes bouquins. Le reste devient plus anecdotique. J'en ai déjà parlé. Je réponds pas à mes emails. Je mets un out of office qui fait comprendre aux gens que oui, si je voulais, je pourrais lire leur email, mais en ce moment, j'ai autre chose à foutre. En gros, c'est dit à peu près ça. Etc. Donc, faut assumer qu'on met à certains moments de l'emphase sur certaines, sur certains sujets plus que d'autres. Et donc, si tu veux être très performant dans ce que tu fais, bah, quand tu bosses à fond. Et voilà. Ce qui fait que quand tu n'es pas en train de bosser, tu peux te permettre de lâcher parce que tu rattraperas ça demain. Et que c'est pas
et ça te demande de faire des choix. Ça veut dire que tu vas louper des opportunités. Ça veut dire qu'on te proposera des choses auxquelles tu ne vas pas répondre au bon moment. Moi, il y a eu plein de fois où je me suis dit que j'allais justement faire une pause là. Et le lendemain matin, tu ouvres ta boîte mail et tu fais « Ah putain, mais en fait, en ce moment, il y a ça, j'aurais dû faire ça. » Et puis, ben, en fait, à un vrai moment, si tu veux professionnaliser le tout et à la fois aussi mieux t'occuper de ta vie perso, ben, il faut que tu puisses assumer le fait de dire « Effectivement, je vais louper des choses, mais je sais pourquoi je les loupe. » Voilà, il faut être en phase avec ce qu'on veut faire réellement.
Et un dernier point, c'est le lieu aussi. Si vous avez l'opportunité de travailler autre part que chez vous, dans votre salon ou dans votre canapé affalé, que ce soit dans un studio avec des potes, pourquoi pas, ou le mieux, c'est dans un espace de coworking, faites-le parce que vraiment, ça encourage ce changement.
Voilà, Martial. Prochaine question.
Alors, c'est Baptiste qui nous pose une question... Apparemment, il y a quelque chose de grave qui s'est passé.
J'aurais aimé savoir comment on fait pour s'en remettre d'avoir fait une erreur à son travail.
Ah.
Quelque chose qui n'est pas forcément soit important, soit...
T'as baisé, pardon, qui ?
C'est vrai, en fait. Mais, quelque chose qui peut être négatif envers ses collaborateurs ou ses supérieurs.
Bon, en vrai, c'est chaud. Ça dépend quoi. On veut pas savoir, mais ça dépend quoi. J'en rigole, mais ça dépend quoi. Il faut l'assumer déjà. Il faut l'assumer.
Pour moi, ça ne tient qu'à ça. En fait, ouais. Je veux dire, la réponse, elle est extrêmement simple et rapide. C'est faut assumer. Assumer. S'il tient lieu de s'excuser, tu t'excuses et tu passes à la suite. De toute façon, il n'y a pas de machine pour revenir dans le passé. Donc, assume. Si c'est une erreur, dis publiquement que c'était une erreur. Travaille à la réparer. Et passe à la suite.
Et prends pas d'excuses. Genre vraiment, il vaut mieux un « Bonjour à tous, j'ai merdé, voilà ce que j'ai mal fait, voici ce que j'ai... » Ouais.
Ça me fait marrer parce que ça nous est arrivé.
Oui, oui, tu veux raconter l'anecdote. Allez, vas-y, on raconte l'anecdote.
À nouveau.
Je la raconte pas en détail, mais je raconte l'anecdote rapidement. En gros, j'étais moi-même missionné de faire quelque chose pour permettre à une personne de l'équipe d'accéder à des locaux. Bon, j'ai complètement mal géré le truc. La personne se retrouve nez à nez avec une porte fermée. Et plutôt que de tout simplement contacter Manuel, qui était la personne la plus proche et la plus à même d'ouvrir à cette personne, j'avais tellement peur de me faire fusiller la gueule par Manuel que j'ai contacté tout le monde, sauf Manuel. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai vraiment foutu la journée en l'air de 10 personnes pour s'occuper d'un truc où moi j'ai merdé, plutôt que de juste l'assumer envers Manuel et de juste lui demander de l'aide en tant qu'associé, quoi. Enfin, clairement, en tant que partenaire, bon, ben, t'en as un qui fait une connerie, ben, on préfère le savoir très rapidement et de manière efficace pour agir, plutôt que de laisser pourrir le truc et gangréner le truc et de s'apercevoir 5 heures après que t'as foutu la merde partout, quoi.
Donc t'as fait une erreur, mais vous travaillez toujours ensemble et vous vous entendez bien, visiblement.
Ouais, bien sûr, mais sur le moment, ça te fait tellement chier parce que je sais exactement le sentiment de te dire « Putain, mais j'étais tellement con. Pourquoi j'ai pas pensé à un truc différent ?» Mais tu sais, sur le moment, t'es pris de peur, de trucs, de dire « Je vais réparer le truc, puis personne va le voir. » Alors qu'en fait, c'est monumental à la fin, quoi.
Mais après coup, tu admets ton erreur et effectivement, c'est la seule solution que t'as, en fait, quand tu fais vraiment une faute qui est grave, etc. C'est un peu dur de le faire. Mais le simple fait de dire « Bah, effectivement, j'ai merdé là-dessus, je m'en excuse. » De toute façon, l'erreur est faite, en fait. Si vraiment,
excuse-moi, on s'excuse pas tout seul. Ça me stresse.
Je vous prie de m'excuser.
Si vraiment tu peux pas la réparer et que c'est trop tard, eh ben, tu peux rien faire d'autre que ça, en fait.
Je pense que petite ou grande, de toute façon, on gagne toujours à faire face à ses erreurs. C'est parfois compliqué, hein. On a toujours tendance à vouloir les esquiver, les faire oublier, les planquer, etc. C'est toujours plus facile parce que là, on est... porté par notre orgueil et notre ego, en se disant « bon, si quelqu'un peut regarder ailleurs et pas voir mon erreur, tout le monde s'en sort grandi ». Et en fait, pas du tout. Et je pense que ça provient aussi d'un système très conformiste où on nous apprend qu'on progresse parce qu'on ne fait pas d'erreurs. Mmh. On ne nous apprend pas que l'on progresse parce qu'on fait des erreurs, qu'on comprend ces erreurs, qu'on en apprend quelque chose et qu'on ne les reproduit pas à l'avenir. Ce qui est important, ça n'est pas de faire ou de ne pas faire des erreurs, c'est même plutôt important d'en faire. Ce qui est important, c'est de ne pas refaire les mêmes.
Ouais.
Donc c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc je pense qu'on gagne toujours à assumer ces erreurs, à les assumer par rapport à soi et à les assumer par rapport aux gens que ça implique, et à, et à en faire une source d'apprentissage pour que demain on soit un meilleur humain.
Bon, après, si tu fais des conneries toute la journée, c'est qu'à un moment, t'es peut-être pas fait pour ce que tu fais, quoi. Je veux dire, faut te poser la question à un moment. On n'est pas en train de te dire, ah, tu te plantes toute la journée, t'as le droit, mais tu vas les excuser toute la journée.
Fais des erreurs, Baptiste, à foison.
Voilà. On fait quelques-unes, t'apprends, mais à un moment, ça fait 6 mois que tu te fais taper dessus. Change, quoi. Fais autre chose, mais c'est que t'es pas bon là-dedans, quoi.
Alors, on prend question suivante?
Bah, je crois que c'est le but, hein.
Ok, mais attends,
c'est l'idée. On fait une FAQ.
C'est Benjamin qui nous parle d'une question un peu existentielle, je crois.
Salut l'équipe de Takeout, je m'appelle Ben, je suis ambulancier et je viens de sortir d'un débat avec mon collègue. On a eu une longue discussion à débat où on n'est pas tout à fait d'accord sur le sujet et je profite tant que c'est frais dans ma tête car ça m'a donné une idée, enfin, proposer une idée de sujet de podcast. Ça a été abordé sur certains épisodes, mais pas vraiment approfondi, à ma connaissance.
Bon teasing.
C'est sur la liberté. Aujourd'hui, dans le monde actuel, est-ce qu'on peut encore parler de liberté, le fait d'être libre, alors qu'on dépend d'un système pour travailler, on dépend de règles, de lois. Ok, on est libre de faire certaines choses, mais est-ce qu'on est vraiment libre? Ou plutôt... Est-ce que la liberté existe encore à l'heure actuelle? Vous voyez, c'est plein de questions qui me trottent dans la tête et j'aurais aimé avoir votre point de vue. Bise à toute l'équipe.
Waouh!
Elle est très bien, cette question de notre ami Ben, ambulancier.
Elle est très bien. Je vais aller me taper tout de suite Freud et Schopenhauer et puis on en reparle d'ici 24 heures. C'est dur, ça?
Comment ça, c'est dur?
Bah, comme
ça n'a aucun rapport avec la question.
La réponse est dure.
Ah, pardon.
La réponse est très difficile.
Moi, je pense que on n'aime pas la liberté. On se fait, on pense.
Repense encore un coup pour voir.
Non, mais si, c'est bien, c'est juste, je trouve.
Je pense que l'être humain est satisfait de satisfaire quelqu'un ou quelque chose. Donc, indirectement, quand on doit satisfaire une exigence de quelqu'un ou son entourage ou une personne, quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un et autre, on n'est pas vraiment libre. On fait la chose pour avoir une réaction parce que ça nous procure ce sentiment de faire plaisir, d'accomplir, de faire quelque chose de bien. Je pense que le fait d'être libre, ça voudrait déjà dire être seul. Et je pense que ça va pas du tout avec la nature humaine. Être libre, ça voudrait dire être s'autosuffire, être tout seul et de ne rien devoir à personne.
Tu m'as fait peur.
Moi, je crois qu'on se bat pour la liberté uniquement politiquement.
Ouais.
C'est toujours politique quand on se bat pour une liberté. C'est jamais vraiment en train, on n'est jamais en train d'essayer de satisfaire un besoin personnel. Et en fait, on aime bien être un peu paterné depuis notre enfance.
Alors, on est des gosses de riches, hein, parce que ça se voit dans vos réponses. Mais quand je dis de riches, ça n'a aucun rapport avec l'argent, ça, c'est un rapport avec l'endroit sur la planète sur laquelle on vit.
Ah, ça, c'est certain.
C'est-à-dire que déjà, le concept de liberté qu'on envisage, il est celui de gens qui visiblement ne sont pas tellement inquiets pour leur sécurité, pour leur intégrité. On peut prendre la pyramide des besoins Maslow, je crois, de tête. Mmh. La première des libertés, c'est celle de raisonner, celle de penser.
Florent Pagny.
Je savais que t'allais la faire.
Tu cites Maslow, je cite Florent Pagny. Chacun son truc, Manuel.
Et donc... ça, c'est une énorme richesse déjà. C'est-à-dire que.
D'avoir le droit d'ouvrir sa gueule, quoi.
Non, ça, c'est deux choses différentes.
Penser, c'est autre chose.
Voilà.
Tu sais que tu peux penser.
Comme disait mon grand-père, t'as deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles. il me le disait souvent d'ailleurs quand je disais une connerie. ne serait-ce qu'être en capacité de. Avoir un minimum de connaissances, d'instructions, etc., qui te permet de nourrir des raisonnements, c'est déjà une forme de liberté. D'ailleurs, la liberté contractée à sa plus simple expression, quand on t'entrave sur toutes les autres formes de liberté, de mouvement, d'opinion, etc., etc., celle qu'on ne peut pas t'enlever, c'est celle de raisonner, de réfléchir, de penser. Et elle est déjà énorme. Après, le concept même de liberté contient de la restriction.
Oui.
Puisque y a cette phrase qui dit la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Donc, par définition, il y a une contrainte dans l'existence même de la liberté. Parce que si tu veux que la liberté existe, il faut que tu reconnaisses celle des autres. C'est John Stuart Mill qui disait ça. Donc, par définition, l'existence même de liberté est soumise au fait que tu reconnaisses celle de ton voisin. Et que par l'exercice de ta liberté, tu n'en soustrais pas un petit bout à quelqu'un d'autre. Donc la liberté dans le fond est toujours conditionnée à un écosystème, parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre.
C'est pour ça qu'on accepte que Romain tourne en caleçon, mais pas tout nu.
Exactement.
On a coupé la poire en deux.
On peut appeler ça la poire. Donc, la question de la liberté, on pourrait en parler pendant des heures avec des gens
c'est un sujet philosophique,
même plus qualifiés que nous, mais évidemment qu'à partir du moment où on vit dans une société structurée, eh bien, il y a des codes. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Napoléon, qui a installé le code civil. C'est qu'on a défini des règles de vivre ensemble avec des choses qui étaient acceptables et d'autres qui ne l'étaient pas. Et certaines civilisations considèrent que des choses sont acceptables et d'autres pas. Il y a d'ailleurs des civilisations qui s'affrontent aujourd'hui dans le monde avec une vision du monde qui n'est pas la même. Et on peut parler de la vision occidentale. Il y a même une nuance entre la vision plus anglo-saxonne et la vision plus européenne. Ensuite, il y a la Chine. Ensuite, il y a les pays arabes qui regardent le monde d'une façon différente. Et puis, tu as les Japonais qui, eux, regardent de toute façon tout le reste de la planète de façon différente. À partir du moment où tu vis dans une société structurée, tu en acceptes les codes. Donc, tu contrains ta liberté. Sinon, il faut vivre comme un ermite.
J'avais raison alors, c'est-à-dire qu'être libre, il faudrait être tout seul.
Et encore, je sais pas si tu l'es vraiment.
Oui et non, moi je me sens libre. De fou.
Bah on confirme que tu l'es, hein. D'ailleurs, il faut c'est du boulot de le gérer.
Vous sentez pas libre, vous ?
Si, bien sûr. Ouais.
On est peut-être des privilégiés, mais moi je nous sens libre.
Ça veut dire quoi, libre ? Non, je me sens pas libre. J'ai des choses à rendre le lendemain matin, il y a des gens qui comptent sur moi.
Tu l'as choisi.
Ah oui, bien sûr, donc bien sûr. Mais moi je trouve pas que ça soit la définition du libre, du coup.
Ah ouais ?
Mais parce que ça m'excite pas d'être libre, je n'ai pas envie d'être libre. Moi, ce qui m'excite, c'est d'avoir des gens autour de moi qui comptent sur moi, pour qui je compte aussi, etc. Donc, j'ai pas envie d'être libre.
Mais ça, c'est ta liberté.
C'est pas enfreindre ta liberté. C'est tu fais le choix.
Alors, je vois pas la définition de liberté.
Tu fais le choix de ta condamnation.
Les gens qui sont en prison, ils sont pas libres. Ils ont pas choisi d'être en prison. Voilà. Leur liberté s'arrête là. Toi, t'as choisi toute ta condition actuelle. T'as été libre de faire tous ces choix-là qui t'ont mené à cette situation.
Ouais, ok.
Donc, t'es libre.
Ok.
Alors qu'à certains moments, tu mériterais d'être enfermé.
En fait, tu vis exactement tel que tu l'as choisi. C'est ça, la liberté.
Ok.
C'est en tout cas l'expression de la liberté moderne.
Après, quand tu t'exhibes dans la rue, etc. Bon, là, on t'a déjà expliqué que c'était pas bien. Les messieurs, ils sont venus te chercher la dernière fois, tu nous l'as dit. Mais t'as liberté.
Allez, Manuel, question suivante.
Tu te souviens de cette chemise avec les manches qui s'attachent dans le dos?
Quelle horreur.
Ils t'ont expliqué, les messieurs, ce que c'est la liberté à ce moment-là.
Bonjour à vous trois. Je me demandais si vous alliez faire un podcast sur le monde du luxe, son industrie, le marketing et le storytelling qu'il y a autour.
J'adore le luxe. J'adore ça.
C'est Maxime qui nous pose cette question. Et je pense, pour reprendre une expression de Romain, que ça mériterait un épisode dédié. parce que
non, il y a des codes particuliers à chaque industrie, ça c'est sûr. Et on pourrait en parler.
Il y a beaucoup à dire.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Donc la question est-ce qu'on va faire un podcast sur ce sujet ? Je pense que la réponse pourrait être oui.
Il a pas envie de... On est trois, du coup.
Il veut pas s'engager. Je pense même que moi, je vais faire une vidéo sur ce sujet.
Ah ouais ?
Ah merde.
Oui, parce que j'avais parlé du luxe dans une vidéo sur les AirPods Max. Et je pense que c'est un sujet extrêmement intéressant parce que les gens savent pas ce que c'est, en fait.
Instant promo. Je vais faire, je crois que c'est le 14 octobre, une conférence à Genève.
Ah, j'ai cru une formation...
avec... Oh là là. Non, je m'appelle pas... Enfin, je vais pas citer de nom, mais... Voilà, on a plein d'idées en tête de tout un tas de formateurs qui font des campagnes Instagram pour faire gagner des Tesla et des sacs Chanel.
Bon, c'est assez précis, c'est bon, Manuel, tu peux
Allez.
Et qui sont des escrocs. Je ferai une conférence à Genève, je participerai à un événement qui s'appelle Luxury Day, que Imakina soutient, et j'invite à mes côtés un designer très connu, qui avait son portrait dans le New York Times il n'y a pas très longtemps, qui est un Suisse, qui a designé la majorité des montres que tu portes, si pas plus, Romain.
En tout cas, merci de m'avoir invité aussi, c'est trop cool.
Tu n'es pas invité, mais c'est pas grave, je te enverrai un lien YouTube. Et le thème de la conférence, c'est pourquoi le luxe n'innove plus et se fait kidnapper l'innovation par les industries de la tech.
Oh. Alors moi, je n'ai pas fait la couverture du New York Times. En revanche, je vends une trottinette électrique qui va à 40 km/h, je crois. Elle est comme neuve, je ne l'ai jamais utilisée, donc n'hésitez pas à me contacter.
On en reparlera en tout cas. Mais c'est cool comme question. C'est vrai que pour le coup, ça mériterait qu'on s'y attarde.
Cool la team.
Yo.
Je fais ce vocal juste pour dire acheter des AirPods parce que c'est vraiment trop bien. Voilà. Bisous.
Ah, le boss.
Bye AirPods. Thanks.
Ça, c'est les fans de Léo. Il n'y a pas de questions, visiblement, mais c'est une affirmation.
Ce sont des gens bien.
Vous avez le lien, encore une fois, dans les podcasts hein, pour participer si vous voulez vous aussi nous poser vos questions.
N'hésitez pas à nous envahir de messages comme le précédent.
Salut à tous les trois. Alors, une question assez rapide. Dans un monde où l'entrepreneuriat est devenu, entre guillemets, un peu sacré, et où on entend souvent de grands entrepreneurs comme Gary Vee, dire qu'il faut travailler tout le temps. Est-ce que vous pensez qu'il faille vraiment renoncer à toute liberté, entre guillemets, à tout temps libre, qui n'est pas du travail? Est-ce que vous pensez qu'il faille forcément travailler des heures et des heures, faire des 15 heures par jour pour réussir, ou pas forcément? Merci.
Vas-y Romain, on t'écoute.
Fuck you, Monday.
Ah, c'est juste ça ton intervention.
C'est la punchline de Gary Vee.
Bon, pour
moi
pour,
j'ai envie de dire pourquoi que 15 heures par jour.
Pour nuancer tout ça, c'est marrant parce que tu as parlé de liberté, on en a parlé tout à l'heure en répondant à une autre question. En fait, la réponse est dans ta question, c'est-à-dire que si tu as envie d'être le Cristiano Ronaldo de ton domaine, ouais, tu vas devoir bosser minimum 15 heures par jour peut-être, tu vas devoir te défoncer au travail.
Non, j'ai une autre solution.
Attends.
Va jouer au loto.
Ta gueule.
À qui le tour ?
Mais ça, bosser autant, ça n'enfreint pas ta liberté si c'est tout simplement ce que tu veux. Donc tu renonces pas à une quelconque liberté, puisque je suis pas sûr que par exemple Romain qui est à côté de moi ou alors Manuel, ils enfreignent leur liberté quand ils travaillent des heures et des heures et des heures par jour.
Pour moi, c'est être libre que de me réveiller à 4h30 parce que je le veux, rouler tout seul jusqu'à mon studio et être tout seul jusqu'à 9h, et quand à 9h les gens viennent me dire « Oh là là, dure journée qui commence », bah moi en fait j'ai déjà fini la mienne. Moi c'est un sentiment de liberté incroyable. J'en jouis quoi de ce pouvoir-là, de faire ce que je veux quoi.
On a vu.
Tu fais ce que t'as envie par rapport...
J'ai mal essuyé le...
Tu fais ce que t'as envie par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Et c'est simplement ton mode de vie, donc ça n'enfreint pas ta liberté que de bosser autant. C'est juste que ça dépend de... où tu mets le curseur entre ta vie perso, ta vie professionnelle, etc. Si c'est plus important que tout, bah ouais, peut-être que tu vas bosser 20 heures par jour, ce sera un peu beaucoup, mais peut-être que tu vas bosser 15 heures par jour. Mais c'est... ça, c'est à toi de le définir.
C'est vrai en tout cas que je n'ai pas décidé de dormir dans mon usine, donc j'ai un petit peu réduit mes objectifs.
Moi, je pense que c'est une vraie question d'Européen. C'est-à-dire que la référence qu'il nous donne, c'est une vraie question d'Européen. En Europe, on a un rapport à l'argent qui est contrarié. Donc, du coup, on équilibre notre rapport dans la vie entre la réussite professionnelle et la vie privée par la culture. On dit, voilà, c'est important de garder du temps pour soi, c'est important de se cultiver, etc. Parce que c'est une façon presque d'excuser une forme de réussite ou du fait de gagner du fric. Aux États-Unis, on a une approche beaucoup plus protestante des choses. C'est-à-dire que ce qui n'est pas acceptable pour un Américain, c'est de gagner beaucoup d'argent et de ne pas y consacrer du temps, de ne pas surtravailler. C'est tout à fait acceptable de gagner beaucoup d'argent, c'est tout à fait acceptable de le montrer, c'est tout à fait acceptable d'avoir des signes extérieurs de richesse. Mais par contre, si tu travailles peu, si tu ne t'impliques pas pour les autres, pour ton équipe, si tu n'y passes pas beaucoup de temps, ça, c'est tout à fait inacceptable. On en avait déjà parlé dans un autre épisode quand j'avais raconté cette anecdote qui dit que quand Bezos a déclaré qu'il travaillait que je sais plus 4 ou 5 heures par jour, ça avait fait un scandale.
C'est ouf. C'est pas, je trouve ça incroyable.
C'est pas le problème. Le problème, c'est pas qu'il gagne des centaines de millions de dollars. Le problème, c'est que ça soit corrélé à aussi peu de temps de travail. Et lui, il dit, mais c'est très simple, moi, je démarre tard le matin, une fois que j'ai pris mon petit-déj, j'accompagne mes enfants à l'école, etc. etc. Et il part à 16 heures du bureau, et en gros, il a travaillé 5 ou 6 heures dans la journée, grand maximum. Ce qui, aux États-Unis, n'est pas du tout un standard. Le standard aux US, c'est quand même 11 à 12 heures.
Mmh. C'est fou parce que nous, ça ne nous choquerait pas plus que ça d'un ministre, par exemple. Ce genre de déclaration.
Alors, il ne gagne pas la même chose que Bezos ou non, alors il y a des métriques que je ne suis pas au courant.
Bezos, il ne doit rien à personne. Enfin, s'il veut travailler 3 heures par jour, il peut le faire.
Mais il pourrait ne pas travailler. Je pense c'est chez lui, quoi.
Oui, mais je pense que le fait que ça choque, c'est vraiment d'un point de vue ce que tu apportes à la société. J'ai l'impression que c'est vraiment ce truc-là de bah tu dois travailler parce que tu dois quelque
tu
chose
dois
à la
rendre.
Société.
Ouais, tu dois rendre. La société t'a rendu célèbre, t'a rendu riche, t'a rendu ceci, voilà. Comme si toi tu étais pas finalement pour grand-chose.
Et t'as pas besoin d'être dans la fonction publique ou quoi pour devoir accomplir ce devoir-là. Et ce côté-là, on l'a pas du tout, nous.
Et nous, en Europe, on n'est pas là-dedans. On est plutôt dans si tu gagnes beaucoup d'argent, ne le montre pas trop, etc. Et n'oublie pas de garder du temps pour toi, du quality time, de la culture,
surtout
de la
ne travaille
famille,
pas trop.
Etc. Oui. Surtout ne travaille pas trop.
Vous
le
êtes
travail
des pour la plupart des gens.
Bien sûr, mais c'est moi je m'en accommode assez bien depuis plus de 20 ans. Le travail est vécu comme une aliénation chez nous. L'étymologie du mot travail, je crois que c'est préparer en latin, c'est la torture.
Ouais.
Les mots sont des armes en fait. Étymologiquement, on est en train de traiter le travail comme une espèce de torture et donc de se dire bon bah le travail ne fait pas tout. Mais quand le travail est source de ta passion, de ton épanouissement, etc. Ben tu le doses pas de la même façon évidemment.
Ouais, mais le travail,
évidemment, quand même, comme Romain, il a pas l'impression d'être exploité quand il bosse.
Bah, je m'exploite tout seul, quoi. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai envie d'aller plus loin, plus fort, mais c'est moi qui le.
Même au-delà de ça, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand on a réglé ces questions d'ego, de savoir si on le fait pour soi ou avec d'autres ou à l'intérieur d'un tout, dans une boîte, machin, etc., c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais ? Et si tu kiffes ce que tu fais, tu y passes du temps. Et tu n'as pas un rapport à ton taux horaire. Je veux dire, quand tu fais un truc hyper chiant, hyper pénible, hyper dur, physiquement qui t'abîme, etc. Oui, effectivement, tu fais attention à ton taux horaire. Mais sinon, non. Et donc, faut reconnaître qu'il y a des métiers qui sont tellement pénibles, ouais, et durs physiquement, et certainement pas assez payés. Et d'ailleurs, la crise du Covid a souligné tous ces métiers qui étaient pas dématérialisables et certainement pas assez rémunérés. Bah cela, oui, c'est compliqué. Je peux comprendre que le mec, il va pas tous les jours avec la fleur au fusil et la passion de se lever à 5h du matin.
Et avec un travail qui peut être pénible, je trouve que beaucoup ne prennent pas assez conscience qu'ils peuvent avoir du temps à côté pour développer une passion qui pourrait à un moment, s'ils le souhaitent, s'ils en ont les ambitions, s'ils en ont les possibilités, la monétiser et ça deviendrait un deuxième travail sans que tu t'en aperçoives. Je sais pas si c'est idéal de le penser aussi facilement, mais j'ai l'impression que le mot travail est toujours corrélé au fait de, on dit que c'est du travail parce que ça te rapporte de l'argent.
Ouais.
Mais les gens qui écrivent un bouquin parce que ça leur fait plaisir d'écrire, bon bah ils y sont pour rien à la fin s'ils vendent 1 million d'exemplaires, pourtant il a gagné de l'argent, mais est-ce que le mec a eu l'impression de bosser ? Toi, tu rentres de chez toi à 18h ou 19h, t'as commencé à 6h du matin, t'as fait une grosse journée. Si t'as envie d'écrire un livre parce que ça te fait plaisir et c'est ta passion d'écrire, et qu'à la fin tu le vends, est-ce que t'auras dit que t'as travaillé de 19h à 1h du matin en rentrant chez toi ? Non ! T'as écrit, et puis c'est victime de son succès, et puis t'y peux pas grand-chose, à la fin ça t'a rapporté de l'argent.
C'est ton travail en fait, au final.
C'est ça qui est bizarre aussi, je trouve, avec ce mot travail, c'est que t'as des trucs où on dit que c'est du travail, d'autres non.
Mais quand tu écris un livre, tu te condamnes toi-même à cet objectif, y a personne qui te menace pour écrire, ouais, un livre. Tu vas à l'usine et que tu travailles la nuit parce que tu fais les 3-8, c'est pas toi qui t'es condamné à ça. Alors quelque part, tu t'es un peu condamné à ça parce que t'as pas saisi les opportunités qu'on t'a mis entre les mains dans nos sociétés aujourd'hui. Bon, l'école est accessible à tous, etc., etc. Mais en même temps, c'est beaucoup plus une contrainte qu'un choix. Mais ce qui est vrai, c'est que cette même personne pourrait aussi se dire quelle est ma passion, est-ce que j'arrive à en faire une source de rémunération, oui, non, même si elle n'est pas totale, même si ça ne devient pas son job demain, ça peut être une source de rémunération complémentaire. D'ailleurs, dans d'autres géographies dans le monde, beaucoup de gens ont plusieurs travails et cumulent des rémunérations différentes de façon à limiter aussi leurs risques. Et le fait que quand un job s'arrête, ils ne perdent pas tout. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas en France. D'ailleurs, on encadre la durée de temps de travail en France. C'est un truc qui est assez inédit dans le monde. On dit aux gens, mais il ne faut pas travailler plus que 35 heures. D'ailleurs, c'est la durée légale de temps de travail. Si tu travailles plus, soit tu es un patron et on s'en fout, parce que de toute façon, tu es un vilain, et tu exploites les gens et tu es un méchant. Donc, de toute façon, la société ne s'occupe pas de toi. Peu importe que tu crées ou pas de la richesse qui permette à d'autres personnes de vivre. Et certains sont des vrais tocards et d'autres sont des gens bien. Il n'y a pas de vérité en la matière. Mais pourquoi encadrer cette durée de façon aussi drastique et aussi systématique? C'est-à-dire que cette durée du temps de travail, elle s'applique à tout le monde de la même façon. Et ça, c'est inédit. Hein.
Imagine que tu vas à la salle de sport et fixe un objectif en fonction de ce que tu as envie de faire. Si tu veux, d'ici 4 ans, être un peu plus en forme et perdre les quelques bourrelets que t'as, bah, t'y vas quelques heures par semaine, tu manges bien et ça suffira. Si t'as envie pour l'année prochaine d'avoir un summer body avec des pecs, un petit peu d'abdos, etc., va falloir que tu bosses un peu plus. Va falloir que tu ailles tous les jours et que tu sois quelques heures à la salle et que vraiment ce soit hyper strict au niveau de ton alimentation. Bah, c'est la même chose dans le travail. Si vraiment t'as un objectif qui est hyper hyper élevé, il va falloir que tu travailles beaucoup plus que les autres.
Autre question ?
C'est juste ce petit audio du coup pour vous demander si vous pouvez me parler par exemple des moments où vous manquez d'inspiration. Qu'est-ce que vous faites quand vous manquez d'inspiration ? Qu'est-ce que vous allez faire pendant votre journée où vous manquez d'inspiration ? Vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas quoi faire. Bon, par exemple, quand j'ai mon projet, il y a des moments où je ne sais pas trop quoi faire pour l'améliorer, où il n'y a pas trop beaucoup de choses qui se passent et tout. Donc, du coup, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre projet alors que vous êtes en manque d'inspiration ?
Bonne trottinette électrique ou...
C'est celle que j'ai vendue justement tout à l'heure. Merci beaucoup, Corentin. Pour ce podcast qui fonctionne bien.
C'est Corentin qui pose cette question dans une maison hantée.
C'est intéressant.
Alors Corentin, j'ai une réponse très simple parce que elle est unique. Dans le sens où je n'ai qu'une seule réponse à te donner. Pour moi, il n'y a qu'un seul truc qui marche, c'est le travail des autres. Si tu as envie d'être inspiré, bah, c'est la méthode Tarantino. Tarantino, c'est le mec qui connaît le plus de films de la galaxie. Il a tout regardé, des chefs-d'œuvre aux films perdus au fond d'un vidéoclub. Il a tout regardé et il a pris des petites idées qui se cachent dans des films même merdiques et il les a mis dans des films qui sont incroyables, qui sont devenus des chefs-d'œuvre par la suite. La seule source d'inspiration que tu peux trouver, selon moi, c'est le travail des autres. Alors regarde ce que les autres font dans ton domaine, mais pas que, aussi dans des domaines qui sont un peu éloignés. Je te dis, moi, souvent, je lis des livres sur certains sujets qui pourraient potentiellement m'inspirer.
Mais voilà, tu copies-colles pas du travail pour... Pas du tout, c'est non, pas non. Ça de l'inspiration.
L'inspiration, ouais. c'est pas du copier-coller, c'est pas tu vas sur Wikipédia, c'est tu regardes des centaines et des centaines.
Gars, on t'embrasse.
Tu lis des ouvrages, tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts, tout ce que tu veux, des trucs qui se rapprochent de ton domaine ou non, ils ont juste un petit point commun, ça suffit. Juste, tu regardes le travail des autres, ce qu'ils font, tu l'adaptes à ta sauce et tu seras inspiré naturellement.
Moi, j'ai une réponse aussi, toute simple. Une équipe. Si tu te construis une bonne équipe et que tu n'es pas tout seul, tu ne seras jamais en manque d'inspiration parce que quand il y en a un qui a une faiblesse, tu as toujours l'autre qui va être là parce qu'il aura eu l'idée que toi, tu n'as pas eu la veille et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que toute la semaine, tu as tout le temps des objectifs qui roulent et qu'on se fixe en fait entre nous parce qu'il y en a un qui va pouvoir bouger cette pièce-là dans l'engrenage, l'autre qui va pouvoir bouger l'autre pièce, l'autre qui va construire la voiture et à la fin de la fin, tu auras une super voiture. Mais si tu étais tout seul, tu n'aurais rien fait du tout.
C'est marrant parce que moi, je fonctionne un peu à l'inverse. J'ai beaucoup de mal à travailler avec des gens. Souvent, je travaille tout seul et après, à la limite, je soumets à quelqu'un d'extérieur qui fait pas forcément le même métier que moi, etc. Et là, j'arrive à concevoir quelque chose. Mais moi, j'arrive pas comme toi à être inspiré par les gens qui m'entourent sur un sujet précis, en tout cas.
Oui, mais tu vois, aujourd'hui, t'es tout seul, Léo. Du coup, si t'es pas inspiré tout seul en ouvrant ton bouquin, il y a personne autour de toi qui va te donner une idée pour que tu aies un rythme de vidéo, pour que tu puisses produire plus de choses, etc. Si tu te réveilles pas tout seul par le Saint-Esprit en disant « Oh tiens, je vais faire une vidéo dessus », il y a personne qui va essayer de te parler d'un sujet pour t'y intéresser.
Alors souvent, c'est très naturel. Souvent, je parle à un pote, mais qui est pas dans ma profession, qui juste s'intéresse un peu aux mêmes choses que moi. Et là, on va créer avec une discussion qui est complètement naturelle où on s'est pas dit on fait un brainstorming, faut que je fasse une nouvelle vidéo, créer un sujet de vidéo par exemple.
T'es en panne d'inspiration toi, Manuel?
Pas ça à t'arrive? Plusieurs endroits d'ailleurs je crois.
Ça oui bien sûr ça m'arrive, ça m'arrive de tourner en rond ou de pas trouver la solution. Je pense déjà que le premier élément c'est que quand on cherche à craquer un problème, à trouver une idée, souvent on trouve cette idée en ne la cherchant plus. Et donc, il faut passer à autre chose. C'est ce que faisait Steve en utilisant la marche. chaque fois qu'il cherchait des idées, il sortait de son bureau et il allait marcher. Ouais. Et c'est souvent en marchant qu'il trouvait les meilleures idées. Non, il faisait beaucoup de meetings. Exactement. Il faisait beaucoup de meetings en marchant. Et c'est comme ça que des idées émergeaient. Pourquoi ? Parce que ton corps est concentré sur d'autres choses. Tu n'es plus totalement focusé sur le problème à craquer. Et ton cerveau, par approche cognitive, commence à faire des associations d'idées, rapproche des choses qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres et commence à créer. Donc ça, c'est un premier axe. C'est-à-dire que quand tu es en panne d'inspiration, surtout, pose le stylo, va faire autre chose.
Ouais.
N'aie pas la culpabilité de penser à autre chose, même si y a un délai, même s'il y a une contrainte. Et souvent, c'est en faisant autre chose que tu vas trouver l'idée. Et pour ne pas la perdre, dès qu'elle émerge, note-la.
Ouais. Et bah moi, souvent, mes idées me viennent comme ça. La douche, ça marche aussi. C'est pour ça qu'on a autant d'idées sous la douche. C'est qu'on n'a pas notre téléphone, on n'a aucune distraction potentielle.
T'as que tes mains.
Donc, en général, les idées nous viennent sous la douche. Ça marche pareil avec la marche. Si vous vous forcez à marcher en ville sans téléphone, il y a un moment où votre cerveau il va créer des trucs, des discussions, des monologues. Et comme disait Gandhi, le monologue est la discussion la plus importante de votre vie. Un truc dans le genre. Voilà. Merci à toi, Gandhi. Un autre conseil.
Si en plus tu marches sous la douche, alors là.
Alors en plus, là, c'est le top du top. Un autre conseil, c'est.
C'est une grande douche.
Si ton travail consiste à écrire, en général, tu peux écrire des idées. C'est souvent comme ça que vient l'inspiration. Écris des trucs même nuls. Commence ta journée par écrire des trucs que tu considères comme étant à chier. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout ce qui compte, c'est de te mettre dans le process d'écrire des choses, d'écrire des idées, de commencer à faire travailler ton cerveau. Et au bout d'un moment, tu te rendras compte qu'à force d'écrire des trucs nuls, tu commenceras à écrire des trucs qui sont pas mal. Pourquoi ? Parce que t'as démarré, en fait, simplement. Si tu peux pas partir en sprint, si tu commences pas à faire quelques pas. Donc, fais quelques pas, écris des trucs à chier et tu finiras par écrire de bonnes idées.
C'est vrai qu'on a eu pas mal de bonnes idées, Manuel, en dehors du bureau. J'ai repensé là quand tu disais ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses où... Parfois, c'est dans des moments qui n'ont rien à voir, où on se lance sur un sujet pour discuter, en voiture souvent, parce que je roule beaucoup, je kiffe. Et ça peut émerger vraiment différemment.
Oui, je pense qu'il n'y a pas un cadre précis pour avoir de bonnes idées. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un horaire. Donc, quand on bute sur un problème d'inspiration, la première chose à faire, c'est changer tout le contexte autour de soi et d'aller en chercher un autre. Et souvent, créativement, c'est à ce moment-là qu'émergent de nouvelles choses. Et ensuite, je pense que la création, c'est, pour rejoindre ce que disait Léo tout à l'heure, ça n'est que l'art de voler. Voler et dérober à d'autres des morceaux de trucs pour les réassembler différemment. Je ne veux pas relever cette blague de bas niveau. Donc, il faut aller écouter ce qu'ont fait les autres sur ce sujet-là, s'inspirer, lire, mais ça peut être aussi écouter des podcasts, ça peut être... vous battez pas les gars, j'ai deux mecs en face de moi qui lèvent la main pendant des minutes entières.
Parce que j'ai une citation par rapport à ce que t'as dit.
Oui.
Picasso a dit « Les bons artistes copient, les grands artistes pillent ».
Exactement, exactement. Tu viens de me niquer la citation par laquelle je voulais conclure.
T'allais faire ça ?
Exactement.
Incroyable, on s'arrête là alors.
Voilà.
Comme ça, Romain ne parle pas.
Et vous êtes des bâtards.
On s'arrête sur le fait qu'on soit d'accord.
Non, mais pour le coup, sur le coup du travail, je pense que la culture, comme le dit Léo, le fait de se forcer parfois à relâcher ce qu'on fait, le fait d'être trop focus dans son travail, bah, parfois ne te permet pas d'avoir un état d'esprit différent, une façon de penser, d'avoir regardé ce qui se faisait, mais dans des musées qui n'ont rien à voir. C'est des trucs bêtes, mais parfois juste d'aller dans un musée où j'y serais jamais allé de base, ça va m'inspirer sur des couleurs, sur des façons de penser. Je vais regarder une citation, je vais connaître un auteur, Et ces trucs-là n'ont aucun rapport avec ton taf de base, sauf qu'à la fin de la fin, tu vas faire ton taf. Et on l'a vu avec Steve Jobs, hein, qui a travaillé énormément sur les typographies, l'écriture, qui a beaucoup voyagé,
ouais.
Pris beaucoup de drogue aussi. Ça t'ouvre un état d'esprit.
Ça fait partie de la culture.
Ça fait partie de la culture. Mais ça te permet de t'ouvrir. Parfois, la clé, ce n'est pas de te focus uniquement sur ton taf et de faire ça pendant 20 ans sans rien voir d'autre.
Conclusion, prenez du LSD. Surtout chez les plus jeunes. Faut commencer dès le plus jeune âge si vous voulez finir comme Steve Jobs.
Non, mais c'est bien d'être obsessionnel, mais c'est bien aussi de relâcher de temps en temps. Et n'oubliez pas que la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence.
À très vite. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.
Bye bye.
La bise.
Je te donne le love que tu mérites, même si tu me rends le dixième. J'ai tout noté sur un carnet. En voilà une drôle de question. Une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. En voilà une drôle de question. Une drôle de question.
Non,
j'ai pris des résolutions.
Parce que là, je vais penser que à arroser ma plante pendant tout le podcast.
S'il te plaît.
C'est quoi le problème, Manuel, avec la plante?
Thomas, s'il te plaît, ça, je veux que ce soit la fin du podcast.
C'est incroyable.
Tu nous le mets à la toute fin.
Vraiment, on allait démarrer le podcast et là, Manuel touche sa plante et veut pas démarrer.
Vous voyez ce qu'on vit et après, Manuel, sur les réseaux sociaux, il va faire croire qu'il est avec des enfants et que c'est dur de tourner avec nous. Là, on s'apprêtait à tourner un truc qui est important.
Tout
quand
était
même.
Nickel et puis on avait fait le petit son du
c'est,
début.
C'est sérieux, on a mis la petite.
Et là, c'est. Ah non, on démarre pas tant que ma plante, elle a pas d'eau.
Parce que vraiment, ça pouvait pas attendre 20 minutes à la vaisseau tout de suite.
Allez, salut.